Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU, carré, petit, utile.
Dans cette release de CPU, une scène d'exposition, des ordi endormis dans un carton, un musée à visiter au joystick et un cabinet de curiosité. Notre invité est Philippe Dubois, président fondateur de l'association MO5. L'équipe aujourd'hui d'Astric. Et suivez le guide du musée. Bonjour Philippe Dubois.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Merci d'être parmi nous. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui me regardes avec de gros yeux quand je te dis qu'on va aller jouer sur un ordinateur quasi oublié dans un musée. Honnêtement, oui, je pourrais essayer de ressusciter une de mes vieilles machines, mais ma télé n'a plus de prise Péritel et il me manquera le rendu d'un tube cathodique avec les pixels ronds comme des œufs baveux. Et comme qui dirait le Dr Jones...
Sa place est dans un musée. La tienne aussi.
Et oh, du respect. Tu veux quoi, qu'on joue en émulation? Oui, mais ce n'est pas exactement pareil. J'aurais toujours la nostalgie, l'amertume d'avoir abandonné ce qui semble être une excellente machine. Mais sans ses bugs au quotidien, les temps de chargement escargotesques, le coût prohibitif d'une ludothèque complète et l'absence d'une connexion Internet. Rien que connecter sa prise Péritel à l'arrière d'une télé. Alors que là, on va avoir la proposition de pouvoir défier des inconnus dans un musée, un jeu antidiluvien, anti-PlayStationesque. On verra, enfant du futur immédiat, si t'arrives vraiment à faire face à ton tonton sur le télétennis sur une Thompson. Et après, tu verras ce que c'est que de jouer après 2 minutes de chargement sur un jeu punitif comme Rick Dangerous. Et pourtant, tu en redemanderas. Tu diras à tes parents qu'on va dans un musée pour s'éduquer. Tu me comprends? C'est éducatif. Comme quand ils ont acheté un micro 8 bits dans les années 1980. Si, c'était l'argument qu'ils ont donné à leurs parents. Ouais, on y a cru 3 secondes. Dans les coulisses d'un musée, outre les gardiens et médiateurs, il y a mille et un métiers comme celui de chercheur qui va travailler dans un champ d'études grâce à la documentation amassée en faisant tourner un logiciel ou en démontant le matériel. Il y a aussi le métier de restaurateur. Par exemple, au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, Punch, l'éléphant d'Asie, empaillé, a maintes fois été restauré depuis qu'il a été ramené en 1907 de la jungle du Tarn-et-Garonne et que la maîtresse de maison n'en a pas voulu comme carpette à l'entrée. Et depuis, il a été tellement restauré qu'on dirait objectivement le Christ de Bora quand on compare son état actuel à une photo de son vivant. Et d'un autre côté, l'extrême fragilité de certaines pièces de collection fait qu'on ne fera jamais n'importe quoi. C'est vrai, quoi. À qui ça viendrait l'idée de prêter la tapisserie de Bayeux qui est très fragile à des Britanniques, dont le British Museum n'a même pas la décence de rendre le Parthénon aux Grecs? Depuis le temps, c'est con. Athènes aurait dû la leur exiger avant d'accepter les conditions du Brexit. Sur la fragilité des témoins de l'histoire, on en sait, hélas, quelque chose. Quand nous avons enregistré en 2017 notre émission sur les ordinateurs familiaux du bloc communiste, les copains de Silicium m'ont amené des machines rares qu'ils ont allumées. Et l'une d'entre elles n'a plus jamais démarré après cette soirée-là. Les amis de Silicium ne me l'ont pas dit de suite, car ils savaient qu'un tel drame allait me fendre le cœur. Une petite machine définitivement morte, car les pièces détachées de Sovkhoz qualité soviétique sont de plus en plus introuvables. Poutine les chine désespérément pour maintenir ses positions en Ukraine. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé dans cette émission sur un autre problème, la pérennité de l'art web. Là-dessus, seule solution, pensez à archiver les sites web avant leur destruction. Trop souvent, nous y avons songé que trop tard. Et comme depuis la création du site web de Radio FMR, on y a tenu nombre d'expositions virtuelles, là aussi c'est nombre de pièces artistiques, de témoignages de la vie culturelle de Toulouse que nous avons perdus. L'ouverture d'un musée de technologie informatique reste un événement, parce qu'il faut beaucoup de savoir-faire pour préserver, faire tourner et expliquer les vieux coucous en question. Et qu'il faut surtout que quelqu'un ait pensé à stocker dans un coin propre et sec ce vieux coucou, ainsi que sa câblerie, ses accessoires et leurs consommables, sa petite Logitech, ses magazines et sa documentation d'époque. Avec le prix sans cesse croissant de l'immobilier, je me demande si de telles mines d'or seront plus rares dans ton futur. Cela deviendra aussi une plus grande difficulté quand il faudra sauvegarder les logiciels qui dépendent d'un serveur central ou complètement conçus pour ne fonctionner qu'en SaaS. Là, pas de copie en local possible. Enfin, du futur immédiat, tu sais très bien qu'ici, à Toulouse, on a un musée de l'informatique, et je dirais même plus, de l'informatique volante, Aeroscopia. Tu peux y visiter un Concorde et un Airbus A380 et voir la différence technologique entre les deux. Par contre, pas sûr qu'on puisse y démarrer les calculateurs de bord, hélas. Un musée de l'informatique, c'est surtout ça, ramener à la vie de vieilles bricoles plutôt qu'empailler leurs dépouilles. Pour parler d'un musée consacré au ça se fait plus, ordisor et console de jeu à l'âge de la pierre carrée, nous devrons d'interviewer celui qui vient de monter le plus grand musée en Europe consacré aux jeux vidéo. Et qu'aucun de sort, il est le président fondateur de MO5, une association de rétrocomputing et rétrogaming qui a plus de 20 ans. L'occasion était trop belle de revenir sur cette saga maillée d'embûches, de boss de fin de niveau, de pièges, de bonus cachés et d'une immense passion à partager. Nous recevons donc par satellite Philippe Dubois, président fondateur de l'association de rétrocomputing MO5, consultant scientifique pour la Cité de la Villette, ex-administrateur de base de données Oracle et accessoirement grand maître de l'ordre oriental du nanoréseau. Ceci est la première partie de l'interview. La suite de cette interview sera diffusée dans l'émission suivante. L'intégralité de l'interview est disponible dès à présent sur le site web de l'émission cpu.pm/229. D'abord, pour commencer, puisqu'on enregistre une semaine après l'inauguration du musée du jeu vidéo, très sincères félicitations, ainsi que pour le site web museedujeuxvideo.org qui permet de prévisiter le musée. J'ai trouvé la partie cachée, j'en suis très fier. Vous avez beaucoup de retours presse, je suppose que beaucoup de visiteurs s'y pressent à une semaine de Noël.
Ah oui, c'est tout. Bah oui, je sais même pas comment aborder le sujet, mais en tout cas, voilà, on a ouvert un petit peu juste avant les vacances de Noël. C'est ouvert depuis le 13 décembre, hein, donc ça reste très frais une semaine plus tard. Et dès le début, dès les annonces, ou l'annonce, en tout cas la première annonce qu'on a faite d'ouverture du musée du jeu vidéo, c'était pendant la Paris Games Week en novembre, eh bien on a eu immédiatement une couverture presse assez importante, déjà que on est sur Paris, donc il y a beaucoup de journalistes évidemment dans le coin, et aussi parce que c'est un sujet qui passionne, pour plein de raisons, notamment qui fait que, alors nous ne sommes pas le premier musée du jeu vidéo, mais on osse la barre certainement au niveau qualitatif, en tout cas on essaie. Et puis surtout les deux précédentes aventures de musée du jeu vidéo, quel que soit leur nom, se sont plantées pour diverses raisons, mais il y avait un flambeau à reprendre. Voilà. Et donc voilà ce qui explique pourquoi beaucoup de journalistes, alors déjà naturellement, nous-mêmes on a dans nos réseaux et nos communications et nos partenaires beaucoup de corps éditoriaux, hein, de médias, etc., donc qu'on connaît bien et qui sont à l'affût de nos nouvelles. C'est ce qui fait que ça a fait beaucoup d'émulsions. Il y a encore beaucoup de passages, hein, de médias qui vont passer. Il y en a demain, il y en a la semaine prochaine qui vont passer au musée. Ça va continuer encore un certain temps, donc... Je pense que la couverture médiatique du musée du jeu vidéo, on n'a pas trop à s'inquiéter. Ça devrait bien le faire. On est très contents. Voilà.
Tant mieux pour vous. Comment a été créée l'association MO5?
Ouh là là, ça remonte à très longtemps, hein, comme vous l'avez dit un petit peu en introduction. En fait, alors vraiment très résumé, très résumé. D'abord, c'est une fondatrice, 1993, hein, donc ça fait pas mal de temps. Lorsque j'étais en école d'ingénieur à Perpignan, hein, parce que je suis un enfant du sud de la France, et en fait, en 93, un matin, je me suis levé, je me suis remémoré une espèce de flashback, je n'étais pas du tout en train de mourir, de flashback de tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais vécu comme expérience numérique autour de l'usage des jeux vidéo, de l'informatique, des langages de programmation, des annonces, des consoles perdues, enfin des jeux vidéo que j'avais auxquels j'avais joué ou pas eu l'occasion de faire, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, voilà, c'était un matin de 93, je me suis dit, mais toutes ces connaissances, que vont-elles devenir? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans 10, 20, 30, 40 ans? Je vais certainement oublier beaucoup de détails parce que notre mémoire est biologique et elle s'efface, évidemment, petit à petit, comme comme notre trace sur la Terre, j'ai envie de dire. Donc il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose parce que ça m'embêtait beaucoup. Comme j'avais beaucoup, j'ai vraiment tellement apprécié quand j'étais enfant mes premiers émois avec un micro-ordinateur, le basique, et la programmation, les jeux vidéo évidemment sur plein de consoles différentes ou même des ordinateurs. J'avais trouvé ça tellement passionnant que de toute façon j'en ai fait ma vie, j'en ai fait mon métier. Voilà. Et si j'en faisais ma vie et mon métier, ça veut dire que pour moi, justement, toutes ces expériences passées, qui sont extrêmement nombreuses pour plein de raisons, eh bien en fait, les voir disparaître, c'était pas possible en fait. Mmh. C'était très, je me sentais vraiment concerné par le fait qu'il fallait absolument garder une mémoire de tout cela. Donc ce que j'ai fait en 93 rapidement, c'est que j'ai juste ouvert, j'avais pas accès encore à Internet, j'ai juste ouvert un fichier Word et en fait j'ai fait un dump de ma mémoire. Voilà. Donc j'ai dit, je sais plus en quel mois on était, peut-être mai ou avril 93. J'ai dit, moi, Philippe Dubois, en mai ou avril 93, voilà tout ce que je connais sur l'informatique, sur les jeux vidéo, sur les langages de programmation, sur comment vaincre tel boss dans tel jeu vidéo, la sélection des armes, comment on se balade, comment on programme un jeu de labyrinthe. Enfin, voilà, c'était vraiment un tome complet. Ça m'a pris une semaine à écrire des lignes. Je crois que j'ai rempli 60 pages de documents. Et au bout d'une semaine, j'ai estimé que j'avais fait le tour de la question, a priori. J'avais couché sur le papier tout ce que je connaissais et j'ai mis ce document de côté. Voilà.
Quelle est la taille du fonds actuel de l'association MO5?
Alors, on a une estimation, ça reste une estimation parce que les inventaires sont en cours et on n'arrive pas, en fait, assez rapidement à faire les inventaires de tout ce qui rentre en termes de dons. Donc, on a une estimation à 70 000 documents. En termes muséo, documents, c'est-à-dire c'est tout n'importe quoi. Hein. C'est des consoles de jeux, des ordinateurs, des périphériques, des magazines, des livres, des disquettes, des logiciels, quel que soit le support. 70 000 documents dans son ensemble, c'est une estimation d'après certains inventaires qui sont assez avancés. Et comme on le dit un peu naïvement, mais parce que c'est vrai, au sein du musée du jeu vidéo, le public ne va en rencontrer peut-être que 5% de nos collections.
Et combien il y a de membres de l'association MO5? Je crois qu'en plus, vous avez des membres d'honneur et vous avez un très, très beau carnet d'adresses.
Ouais. On a, donc là, le dernier chiffre que j'ai vu passer, parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions actuellement, avec le rayonnement du musée, on est à 625 membres. Voilà.
D'accord.
Et parmi eux, effectivement, il y a les membres d'honneur, qui font partie de ces 625 d'ailleurs. Et les membres d'honneur, voilà, comme on peut le voir sur le site web ou sur le magazine, ce sont parmi les plus grandes personnalités du monde liées à l'informatique et aux jeux vidéo. Beaucoup plus jeux vidéo, parce que ça parle beaucoup plus au public, évidemment. Et dedans, on va retrouver des célébrités françaises ou étrangères. On peut parler de Hideo Kojima, on peut parler de Monsieur Nobuo Uematsu, on peut parler de Philippe Ulrich, de Alexei Pachinov, etc., etc. Enfin, ça va, David Crane. Ça peut aller très, très loin et voilà, des Américains, des Japonais, des Canadiens, des Français, un peu tout le monde. Et petit à petit, on en ajoute. Voilà. On les fait simplement participer, entre guillemets, à l'effort de guerre. Et on leur demande juste une chose, ces membres d'honneur, c'est qu'ils nous soutiennent. Voilà, en y en petits mots ou s'ils ont un document chez eux lié à la genèse des œuvres sur lesquelles ils ont travaillé, ils peuvent nous les confier. Mmh. C'est on leur demande pas grand-chose, mais en tout cas, ils sont avec nous et ne serait-ce que justement les avoir avec nous, c'est pour nous un énorme soutien.
Le projet de monter un musée, ça traînait. C'est quelque chose qui mûrissait depuis très longtemps quand même pour votre association.
Oui. Très très longtemps.
On va passer un petit peu vite sur toutes ces histoires. L'adresse de l'établissement que vous avez ouvert, c'est pas loin de la station La Place du RERB.
C'est ça.
Moi, je suis à Toulouse, donc je crois que c'est 10 avenue Paul Doumer à Arcueil. C'est l'ancienne mairie, si je ne me trompe. C'est à quoi? C'est à 300 mètres au sud du périphérique parisien.
Exactement. Oui, c'est ça. C'est vraiment vraiment aux portes de Paris. Y a pas besoin d'imager par rapport à ça. C'est vraiment très très proche. C'est à 10 minutes à peu près en RER de Châtelet, donc du centre de Paris. Et donc c'est bien desservi. Il y a même un parking parce que comme c'est l'ancienne mairie, donc ce bâtiment a servi il y a encore 3-4 mois à accueillir le public. Donc il y a un parking accessible qui est gratuit d'ailleurs. Donc on peut y aller en voiture, on peut y aller en voiture en transport en commun. Donc c'est assez facile d'accès et donc nous sommes effectivement dans l'ancienne mairie, dans lequel bah, nous avons un espace qui nous est prêté très généreusement par les services de la ville d'Arcueil, pour lequel donc pour l'instant nous occupons, je sais pas, peut-être un cinquième, peut-être même pas du bâtiment, voilà, ah ouais. Avec ses 1200 mètres carrés d'exposition. Oui, le bâtiment est immense. Hein. Mais comme on l'a annoncé, en fait, on est les premiers occupants de ce bâtiment, de cette donc ancienne mairie, qui maintenant a une destination socio-culturelle associative. Voilà, ça c'est intéressant, parce que nous sommes une association qui est maintenant basée à Arcueil, hein, enfin depuis pas mal d'années. Et en fait, nous sommes les premiers occupants, mais d'autres personnes, d'autres services vont nous rejoindre petit à petit dans les mois à venir. Et donc, le musée va se transformer, va bouger un peu de place, va peut-être changer d'étage, etc., etc. Et donc, va se transformer. Voilà.
On vous souhaite en tout cas que ça soit la bonne adresse.
Ben oui, merci.
Ça veut dire que c'est une adresse qui vous est prêtée par l'équipe municipale actuelle, donc vous êtes quand même, oui, comme tout le monde, un petit peu tributaire des élections qui vont avoir lieu en 2026.
Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas trop de risques que le bord change ou qu'il y ait une révolution dans cette ville. Hein. Donc, on connaît bien les élus et puis la nouvelle élue. Donc.
Et je doute que d'autres candidats ne soient ni joueurs, ni envie de froisser la jeunesse actuelle et d'antan.
Oui, voilà, avec le... nous, c'est ce qu'on espère, c'est qu'avec le rayonnement qu'on apporte sur la ville, un rayonnement international, hein, maintenant, puisque le musée du vidéo de l'association MO5 fait partie d'un réseau à minima européen de musées européens dédiés aux jeux vidéo avec la fédération FGAMP. Donc, on espère que tout l'éclairage qu'on apporte sur la ville, sur l'accompagnement des services municipaux, fera en sorte que la ville continue de nous soutenir et donc accueille toujours à bras ouverts ce très beau musée du jeu vidéo tel que nous l'avons conçu dans sa première version. Voilà.
Quand est-il ouvert pour le public?
Il est ouvert très exactement le mercredi, samedi, dimanche après-midi. Ça, c'est pour le public.
À quel prix?
Or, la grille des tarifs est sur le site, évidemment, hein. Donc, le site, il est très rigolo, le site web du musée du vidéo, puisqu'il y a un jeu vidéo intégré dans le site du musée du vidéo, et il y a même un jeu vidéo intégré dans le jeu vidéo, intégré dans le site du musée du jeu vidéo.
Ouais, il faut passer par le warp. Je dirais pas comment.
Voilà, le warp. Exactement. Et c'est qu'un début. On va continuer de l'habiller, etc. Mais donc voilà, les tarifs sont dessus. Donc il y a un prix maximum. On s'était engagé qui est inférieur à 10 euros. On est à 9,90 pour le tarif le plus haut, hein, sans réduction, sans carte étudiant, invalidité, etc. Et après, on a des tarifs dégressifs selon les personnes, si elles sont étudiantes, si ce sont des enfants, évidemment.
Et justement, à propos des enfants, c'est à partir de quel âge?
Ben, y a pas d'âge, en fait, hein. Tant que les parents accompagnent leurs enfants, ils peuvent venir, n'importe qui peut venir. Nous, on a offert la gratuité pour les enfants jusqu'à 6 ans. Voilà.
D'accord.
Au-delà de 6 ans, ça devient payant avec un tarif très préférentiel, c'est-à-dire moins de 5 euros. C'est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Et les arcueillers aussi, arcueillers, arcueillaises, ont un tarif préférentiel, moitié prix, lorsqu'ils viennent visiter le musée. Et ce qui est plus important encore, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai dit tout à l'heure que nous avions beaucoup plus d'adhérents depuis l'ouverture du musée, c'est que le musée est gratuit pour les membres de l'association, bien sûr, puisque quelque part c'est leur musée.
Donc s'il y en a qui veulent revenir plusieurs fois, ils ont intérêt à devenir membres. Good game.
Eh ben oui, c'est ce qu'on estime et ça marche a priori plutôt pas mal. Tout le monde est content, donc finalement c'est du win to win, comme on dit.
Philippe Dubois, vous ne bougez pas, on fait une pause musicale. We'll be right back. Museum Mechanic Fantasy. Écoutez Radio Éphémère. Tous les musées ne se valent pas. Certains sont d'une taille très modeste, d'autres sont des institutions nationales. On va essayer de les classer et de voir quel type de musées en France sont les plus actifs dans les domaines technologiques. Le particulier. L'échelle la plus petite est celle du particulier. Celui qui a gardé un vieil ordinateur ou console, mis ça dans un carton au sec ou a monté une vitrine, voire transformé une pièce en cabinet de curiosité. En général, un passionné qui a acheté plusieurs machines s'est fourni en occasion en ligne, en solderie ou en vide-grenier, parfois de la récupération de machines obsolètes jetées par des entreprises ou par héritage. Et avec le temps, la collection peut devenir remarquable. Il arrive qu'une collection d'un particulier soit prêtée pour exposition dans un musée. Certains particuliers ont des collections immenses, une des plus grandes ayant été celle de Paul Allen, cofondateur de Microsoft, décédé en 2018. Sa collection a été récemment dispersée par ses héritiers, lesquels ne voulaient pas gérer la pression sociale de tous les geeks du monde. Car oui, gérer une telle collection devient très vite une occupation très prenante. C'est le problème des collections de particuliers, la disparition de son propriétaire et des héritiers qui ne savent qu'en faire, bradant en vide-grenier ou mettant toutes ses vieilleries à la poubelle. Allez hop! Sauf si le dit particulier a été proche d'une association de rétro-computing, rétro-gaming, et donc des gens se proposent pour récupérer la précieuse collection. Le musée privé monté par une association. C'est le type de structure juridique la plus présente dans le domaine de la préservation technologique. La loi de 1901 régissant les associations en France oblige à un but non lucratif, donc à ne pas faire de bénéfices financiers. De fait, aucune de ces structures à but patrimonial n'arrivant à s'autofinancer par leur activité muséale, elles dépendent beaucoup des dons de tiers et des cotisations de leurs membres. Et vous l'aurez deviné, c'est là qu'on aura classé MO5, Silicium et bien d'autres. Et comme on l'a dit, la plupart des collections des associations sont alimentées par leurs membres. On en parle avec René Speranza dans une autre chronique. Le patrimoine historique d'une entreprise. Orange, Bull, Dassault, SNCF, ces entités commerciales peuvent avoir fait un choix volontaire de garder des éléments de leur histoire, soit en interne, donc toujours en propriété exclusive de l'entreprise, soit par mécénat, délégué à une association, voire à une fondation d'entreprise. Les buts peuvent être très divers. Cela peut être aussi bien pour flatter les salariés, pour servir comme outil de relations publiques, ou pour conserver les archives qui peuvent être liées à un savoir-faire qui est toujours en activité. Sur Toulouse, l'espace EDF Bazacle, qui est un lieu d'exposition d'art contemporain, et avant tout un lieu historique pour EDF. La centrale hydroélectrique, qui a 140 ans, fait toujours tourner des turbines qui datent d'avant la Seconde Guerre mondiale. À noter qu'entre janvier et avril 2025, ce musée est fermé pour rénovation. Hélas, comme les entreprises en question ont avant tout un objectif de rentabilité plus que de préservation de leur histoire, il peut arriver que ce patrimoine soit liquidé, si ce n'est l'entreprise elle-même qui ferme. Musée public. La plupart sont des établissements publics au même titre qu'un lycée ou un hôpital. Elles peuvent être liées soit à une municipalité, à un établissement de recherche comme le CEA, le CNRS ou le CNES, ou à une université. Certains ministères, autres que ceux de la culture, tiennent des musées particuliers, comme celui des armées ou encore celui de la préfecture de police de Paris. Leur mission d'étude et de recherche est d'autant plus affirmée qu'ils font partie d'un service public. Musée national. C'est une catégorie très particulière de musées publics en France qui sont gérés spécifiquement par le service des musées de France du ministère de la Culture. La plupart sont des établissements qui sont gérés par la Réunion des musées nationaux. Quasi tous sont des musées axés sur l'histoire générale ou sur l'art. Aucun n'a une thématique sur la technologie. Musée de France. Là, on est encore dans un autre statut où on retrouve des institutions publiques et des institutions privées. Défini dans une loi de 2002, le label Musée de France est attribué si la conservation et la collection revêtent un intérêt public. Devant un jury paritaire d'élus, de membres du ministère, d'universitaires et de professionnels muséaux. Ce statut impose aussi une gestion patrimoniale allant de procédures quant à la restauration de pièces par un personnel qualifié jusqu'à donner à l'État un droit de préemption en cas de revente de pièces composant une collection. CCSTI, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle. Le CCSTI est une structure particulière, là aussi, à la France, qui attache dans un lieu, un musée, qu'il soit public ou associatif, à des activités de médiation, de recherche, publique ou privée. L'idée étant d'avoir régulièrement des médiations faites par des scientifiques ou des spécialistes technologiques du domaine couvert. Un exemple à Toulouse, la Cité de l'Espace. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Philippe Dubois, président fondateur de l'asso MO5 et surtout qui vient d'ouvrir le musée du jeu vidéo, donc à Arcueil. Avant l'ouverture de ce musée, comment faisait l'association MO5 pour stocker son fonds? Car quand même, vous devez avoir une collection absolument gigantesque.
Oui, elle est d'ailleurs beaucoup trop importante par rapport à nos moyens de stockage depuis très longtemps. Comme je disais tout à l'heure, on travaille avec les services culturels de la ville depuis très longtemps. Nous sommes implantés en fait à Arcueil depuis 2009. Et de ce temps-là, donc nous avons pu avoir accès à un local de stockage pour nos collections, qui est vraiment d'ailleurs à quelques dizaines de mètres, je dirais, de l'ancienne mairie, hein, là où actuellement on a construit le musée de jeux vidéo. Donc à seulement quelques dizaines de mètres, nous avons un lieu de stockage qui est secret et dans lequel il y a toutes les collections de l'association qui sont énormissimes. Enfin, c'est inimaginable. C'est complètement fou.
Pourquoi ne pas avoir tenté un partenariat avec un musée déjà établi ou une université?
Il y a des partenariats. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, le musée du vidéo, dès qu'il est né, le jour J, c'est tout de suite inscrit dans un réseau de musées européens dédiés aux jeux vidéo, qui est notamment qui sont les membres de la Fédération européenne EFGAMP, et dans lequel il y a la majorité des pays européens qui sont représentés. Et c'est une fédération qui a été ouverte, qui a été créée en fait en 2013, entre l'Allemagne, qui disposait déjà du Computer Spielmuseum de Berlin, hein, qui est le premier musée du jeu vidéo européen depuis 2011, l'association Vigamus, qui est devenue le musée GAM à Rome, voilà, qui existe depuis à peu près une dizaine d'années maintenant, et l'association MO5, dans le but, évidemment, toujours de créer un musée d'envergure nationale des jeux vidéo en France. Et donc, cette fédération européenne EFGAMP, dedans, si vous allez sur le site, hein, efgamp.eu, eh bien, en fait, vous verrez qu'il y a plein de membres européens. Il y a la Suède, la Finlande, la Suisse, l'Italie, je pense qu'il doit y avoir l'Espagne ou pas loin, la Pologne, l'Autriche, il y a la Scandinavie, enfin bref, il y en a plein, l'Angleterre. Et en fait, nous étions, c'est ça qui est un peu curieux, bon, enfin, il y a des explications à cela, mais on n'a peut-être pas le temps de développer ça maintenant, mais la France était finalement un des derniers pays, grands pays européens, à ne pas disposer de son musée de jeux vidéo, on va dire d'envergure nationale. Je peux pas dire nationale parce que c'est pas le cas. Mais en tout cas, d'envergure et de qualité. Tous nos copains européens en avaient déjà un depuis très longtemps et la France n'en avait pas. Et donc, le musée de jeux vidéo de l'association MO5 vient combler qualitativement ce manque en offrant, voilà, un espace, bah, on l'a dit, aux portes de Paris, qui est vraiment très grand, très beau, dans lequel, justement, tous nos partenaires européens sont invités et nous avons reçu, d'ailleurs, les félicitations de tous nos partenaires. Voilà.
Et bravo. Il y a déjà eu un musée du jeu vidéo en plein Paris en 2010, à l'Arche de la Défense. C'est une aventure qui s'est interrompue brutalement et d'une manière assez triste. Est-ce qu'on peut rapidement raconter l'histoire de cette exposition?
Alors, c'est un musée, on parle du musée du jeu vidéo de l'agence de communication Alerte Orange. Et c'est un musée du jeu vidéo, c'est assez cocasse, qui a vécu 13 jours, ce qui est très peu. C'était pas beaucoup au niveau pérennité, c'est très très moyen. pour plein de raisons. Je ne vais pas les évoquer maintenant à l'antenne, mais bon, voilà.
On renverra les auditeurs à la documentation qu'on mettra sur la page de l'émission, bien sûr.
Voilà, il y a plein de raisons politico-industrielles, quelque chose, enfin ouais, financières, enfin ouais, voilà. Bref, ils n'ont pas, j'estime personnellement, été très malins. Et donc, c'est un musée qui n'a vécu que 13 jours et qui, de toute façon, n'avait pas du tout une portée patrimoniale. Donc finalement, qui n'était pas du tout intéressant. C'était juste un affichage de collection dans des vitrines du PDG. Mais on s'en fout, mais complètement. Et par contre, le deuxième, lui, était beaucoup plus intéressant. Finalement, notre musée de jeux vidéo, on va dire, est potentiellement le troisième. À moins qu'il y en ait une autre, c'est possible. Mais c'est certainement le troisième musée du jeu vidéo qui naît en France. On espère qu'il sera beaucoup plus pérenne que les deux précédents, malheureusement. Mais le deuxième, lui, était déjà beaucoup plus intéressant parce qu'il a été, il s'appelait donc le Pixel Museum, qui était à Schickingheim, en 2017, peut-être, 2016, je sais plus, qui était un musée privé qui était assez qualitatif, hein, très joli, et qui, a priori, pour des raisons financières, n'a pas vécu, très longtemps. Enfin, il a quand même vécu, je crois, 2 ans et demi. Bon, je dis ça de tête, hein, c'est dans ces eaux-là, mais je pense qu'après ils ont eu trop de problématiques financières et donc c'est un musée qui a déménagé à Bruxelles entre-temps, qui s'est transformé et est allé à Bruxelles. Donc il n'y avait, en tout cas lorsque né en 2025 le musée du jeu vidéo de l'association MO5, il n'y avait déjà plus de musée du jeu vidéo en France depuis déjà pas mal d'années. Et certains d'entre eux finalement qui n'ont pas servi à grand-chose, voilà.
Il y a d'autres projets, comme le musée de l'informatique et du numérique de France, qui est porté par le CNAM, oui, qui est un vieux serpent de mer, là aussi, hein. Je crois qu'on en parle depuis une vingtaine d'années, hein. Il y a eu des livres blancs et tout ça.
Peut-être un peu moins, mais dans ces eaux-là, ouais.
Eux, leur idée, c'est de construire un musée public de l'informatique.
Oui.
Vous seriez associé à une initiative qui serait devenue un musée public, voire un musée national de France?
Alors, je puis même dire qu'en fait, ce projet-là, je suis une des têtes de ce projet depuis une dizaine d'années. L'association MO5 travaille avec le CNAM et maintenant beaucoup d'autres partenaires. Et ce projet-là, donc, qui a rencontré certaines difficultés d'organisation, malheureusement, du côté potentiel de ceux qui l'ont créé, côté CNAM, etc., finalement, n'offre plus beaucoup de support. Et donc, il a été repris, ce projet de label de musée national dédié à l'informatique au numérique, par différentes institutions françaises, qui, elles, sont vraiment très actives, dont MO5. Mais on peut citer Silicium, on peut citer Laconit, on peut citer Terra Numérica à Nice, on peut citer le centre IN2P3 donc à Lyon, différents partenaires voilà qui reforment ce projet-là et qui est, il faut bien le comprendre ainsi, on va peut-être pas épiloguer trop longtemps dessus, mais qui est pour créer en fait un label de qualité pour que des institutions implanté nationalement un peu partout dans le territoire, hein, et pas un seul grand musée du numérique ou d'informatique française, hein, quelque part à Paris ou ailleurs, eh bien en fait, différentes institutions puissent adhérer à ce label et offrir certaines qualités d'accueil du public, de pédagogie par rapport à l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo, en affichant ce label-là. Et donc, c'est un projet qui reprend du poil de la bête, et je suis un des membres actifs du petit collectif qui s'occupe de ça. Et maintenant, je peux l'annoncer, même si on n'a pas encore communiqué. Maintenant, on change de nom. Avant, c'est le projet MINF. Et maintenant, ce projet s'appelle maintenant Alphanum. Et Alphanumérique, si on peut dire. Et donc, d'ici quelques mois, nous allons communiquer le nouveau plan de développement de ce projet et avec, je pense, certainement beaucoup plus de succès que ce qu'on a obtenu le projet de MINF lorsqu'il est né dans les mains du CNAM.
Il y a un projet qui a été monté par 2 youtubeurs qui ont lancé d'ailleurs un crowdfunding derrière. Ce projet donc de musée du jeu vidéo s'appelle Odyssée. Quelle est votre position par rapport à l'autoproclamé plus grand musée du jeu vidéo au monde? Quelle différence entre un musée créé par un entrepreneur et celui monté par une association?
Nous, on n'a pas beaucoup de détails, hein, en fait, sur même à notre échelle, sur ce que sera le projet Odyssée, le musée du jeu vidéo au sein du projet Odyssée. On a compris que c'était un grand village japonais avec d'immenses galeries commerciales et un musée du jeu vidéo dedans. Je doute que nos projets soient comparables, finalement, je pense. Enfin, même par nature, ils ne le sont pas, puisque notre musée est un musée d'essence, hein, qui est associatif et bénévole, alors que là, on parle évidemment d'un musée qui est commercial et privé. Donc j'ai envie de dire, on verra bien. Ce qui est très important, je pense quand même de le, je pense qu'il faut le répéter. Et d'ailleurs, je l'ai dit il y a quelques minutes à peine, c'est que jusqu'avant l'ouverture de notre musée de jeux vidéo de l'association MO5, il n'y avait plus du tout en fait. Il n'y avait plus du tout de musée de jeux vidéo en France. Voilà. Mmh. Pas qu'il y en avait 1, 2, 50, il y en avait 0. Donc là, maintenant, il y en a un, au moins un, celui de MO5, et peut-être plus tard, en 2028 ou X, si le projet Odyssée va jusqu'à son terme, eh bien, il y en aura 2. Ben pourquoi pas? Il vaut bien mieux qu'il y en ait 2.
Il y a de la place pour tout le monde.
Ah, il y a de la place. Voilà. Et il vaut bien mieux qu'il y en ait 2 qu'il n'y en ait pas du tout. Voilà. C'est ça le message, en fait. Mais voilà, je pense que nos musées seront certainement très différents et que, ben, le public, ira à droite ou à gauche, peu importe, tant qu'il trouve du plaisir, c'est le principal. Voilà. Mmh.
Réduire sur la thématique du jeu vidéo, c'était pour avoir une expo satisfaisante pour commencer ou un appetizer avant d'enfin commencer l'exposition de gros mainframe, genre Bull, IBM 360 ou Cray XMP.
Oui, bah effectivement, et beaucoup de gens, pas mal de gens se posent la question parce que de toute façon, par nature, l'association MO5, déjà, elle porte le nom d'un ordinateur, déjà, à la base. D'ailleurs, tu sais qu'on nous a souvent posé la question, est-ce que vous ne préservez que le Thomson MO5? C'était très drôle. C'est quand même très drôle. Donc, la réponse est non, évidemment. Et donc, nous, on est comme Silicium et beaucoup de copains, hein. On va pas les citer, on est rétro, Musée Ripley, etc. On s'occupe de tout. On n'est pas que dédié que jeux vidéo, on n'est pas dédié que informatique, sérieuse ou pas. On fait absolument de tout parce que dans le numérique, mais quand même dans le numérique qui a touché le grand public depuis son avènement grand public, on va dire au milieu des années 70, hein, à peu près, à partir de là, eh bien, tout est important. Tout est important pour expliquer où nous en sommes arrivés en 2025, 55 ans plus tard. Ce musée du vidéo, effectivement, il porte un nom qui est malgré tout le plus, j'allais dire un terme moche, mais c'est comme ça, le plus racoleur possible, parce que un musée de l'informatique, c'est plus assez compliqué à vendre, puisque pour l'instant, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien en France. Donc là, on a pris le parti de partir de l'image d'un musée de jeux vidéo dans lequel il y a massivement, effectivement, majoritairement du jeu vidéo, mais avec les projets que l'on a pour ce musée, et on espère donc que celui-ci va, évidemment, va être pérenne et va progresser, eh bien, on ouvrira davantage, je l'espère, c'est mon souhait personnel déjà, en tant que président, ouvrir davantage, notamment de galeries, qu'elles soient permanentes ou temporaires, dédiées vraiment à l'informatique pure. Et notamment aux gros systèmes.
Et puis vous profitez indirectement de l'immense razzia au Game Awards par le jeu Clair Obscur Expédition 33.
Ouais, exactement, Sandfolk qui sont des copains.
Ça, c'est un hasard, tant mieux.
Ben, c'est des copains de Montpellier, hein, donc ça tombe très bien. Et puis, justement, je pense que j'arrive à les voir bientôt. Mais voilà, c'est le musée du vidéo. Le jeu vidéo en France, c'est quelque chose qui est important en termes de médias culturels et de diffusion de la culture française, notamment Clair Obscur est un très très bon exemple, hein, béret baguette. Il y a toute une image à lier au public et surtout combler ce manque qui était le plus important, je le répète, à faire, qui était qu'il n'y avait pas en France de musée du jeu vidéo, et ça c'était complètement anormal par rapport à tous nos copains européens. Donc ce manque-là est comblé. Après, à partir de là, on l'espère tous, faire progresser le musée et absorber et pouvoir montrer des collections outre ou autres que du jeu vidéo pur, et ce qui signifie de la télématique, de l'informatique, et de la micro-informatique, toute expérience liée au numérique est bonne et intéressante. Voilà.
On va faire un break, justement on va appuyer sur pause, on revient juste après ça. We'll be right back.
le progrès vous attend.
G-Scar Punk, Synthwave Edit. Un très bel hommage au techno-solutionnisme made in France des années 70-80. Je vous conseille le clip. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit très vite en rotation très lourde sur Radio FMR. CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous parlons du musée du jeu vidéo qui vient d'ouvrir à Arcueil avec Philippe Dubois, le président fondateur de l'association MO5 qui est derrière. Philippe, les éditeurs de jeux et constructeurs de consoles et ordinateurs, est-ce qu'ils participent à cette aventure ou est-ce qu'ils ont trop honte de certaines pièces exhibées au public comme une pièce à conviction ?
Non, ils participent. Alors, il faut savoir que, comme ça fait bientôt 23 ans que l'association MO5 est active, très active, une des plus actives en Europe et puis surtout affiche clairement les couleurs de son intérêt pour participer à la création d'un musée national, d'envergure nationale, dédié aux jeux vidéo. Et en fait, nous avons pu nouer des partenariats très solides avec beaucoup d'éditeurs et notamment les deux syndicats du jeu vidéo en France, qui sont le SNJV et le SEL. Voilà. Et donc là, alors je crois que c'est pas encore en ligne, ça ne saurait tarder, mais on est très 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 heureux de pouvoir afficher un partenariat officiel avec le SEL. C'est-à-dire que les plus gros éditeurs mondiaux de jeux vidéo, au travers de l'antenne française que représente le SEL, soutiennent notre projet de musée du jeu vidéo et pour beaucoup d'entre eux, nous autorisent, lorsqu'il y en a besoin d'aller vers eux, à mettre dans les mains du public les œuvres qu'ils ont conçues. Et ça, c'est vraiment primordial.
Le SEL, c'est les éditeurs et le SNJV, c'est entre guillemets les prolétaires.
Il y a le SEL qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs dans lequel il y a les gros constructeurs, éditeurs, Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, etc. Namco, Capcom, tout ça. Et le SNJV, c'est plutôt le syndicat national avec une envergure nationale qui gère les petites et moyennes structures, studios de développement, indé ou non, qui font partie du SNJV. Et le SNJV drive notamment en partie le crédit d'impôt pour le jeu vidéo. Donc c'est très très important et ce qui permet de maintenir une créativité, une industrie du jeu vidéo, une industrie culturelle pour le jeu vidéo en France, ce qui est clairement son meilleur moyen de diffusion culturelle actuellement dans le monde. Donc c'est très très important et les deux syndicats donc sont des partenaires de MO5 depuis très longtemps maintenant. Ils ont signé, en tout cas pour le SEL, a signé officiellement donc pour le soutien du musée du jeu vidéo et puis beaucoup d'autres partenaires qui nous rejoignent. Par rapport à la question que tu posais, moi j'avais juste une anecdote qui est assez rigolote, c'est que il y a par exemple pour une Game Story qui sont les plus grosses expositions qu'on réalisé encore juste avant la création du musée, on avait voulu mettre jouable un Outrun 2, sur PlayStation 2 et qui est un jeu de Sega et en fait Sega nous a dit non. Et c'était Sega France ou Sega Japon, je sais plus. Mais ils nous ont pas dit non parce que ça les embêtait qu'on le fasse. Donc c'était pas cool dans le musée. Non, ils nous ont dit non parce qu'en fait ils venaient juste de perdre les droits avec Ferrari. Voilà l'exclusivité de l'usage du logo Ferrari. Ils ne l'avaient plus. Donc du coup, on pouvait plus mettre ce jeu vidéo-là jouable dans les mains du public qui affichait sur la voiture et le volant le logo Ferrari. Voilà,
donc simplement. Ils ont fait jouer leur droit moral à cause de du fait qu'ils ne puissent plus montrer voilà. Justement cette marque de voiture. Ok.
Mais tu vois, il y a pas de souci en soi. Et puis ou un autre exemple, par exemple, ça c'était aussi à Québec. On voulait mettre GTA 3 ou 4 jouables. Et l'éditeur, je crois que c'est Rockstar, si je dis pas de bêtises, nous a dit, ça nous embête un peu parce que là, vous allez mettre ce jeu qui est quand même assez violent dans les mains du public et tout âge. Au Québec, il n'y avait pas encore le PEGI hein, à l'époque, des choses comme ça. Et donc, ils nous ont dit, bah non, on préférait que vous mettiez autre chose. Donc, on a mis autre chose, mais c'est pas grave. Voilà. C'était assez sensé comme pensée, il n'y a pas de problème.
Je tiens à préciser d'ailleurs, de ce que j'ai vu des reportages vidéo sur les expos, c'est que vous avez au moins un développeur kit de console de jeu. C'est du matériel qui est extrêmement rare et sur lequel les éditeurs, enfin, les constructeurs de consoles ne permettent pas en général de trop montrer, quoi. Donc c'est plutôt exceptionnel. Hein.
On en a beaucoup, hein. On en a mis quelques-uns en vitrine. Justement au musée de jeux vidéo, mais on dispose de beaucoup plus. Il y en a même, il paraît certain qu'on ne peut pas montrer. Voilà, je dirais ça comme ça vite fait.
Sûrement celui de l'Amstrad GX 4000. Un musée de jeux vidéo... Désolé. Un musée du jeu vidéo doit-il forcément contenir que des ça se fait plus, ou il peut avoir des PC de gamers dernier cri avec la RAM DDR5 qui vaut le prix de l'or actuellement?
Ah oui, c'est sûr que maintenant les prix se sont envolés. Non, mais il y a de tout. Hein. On nous pose souvent la question d'ailleurs... Une des règles, entre guillemets, alors c'est chacun fait ce qu'il veut, mais qu'est-ce que le rétro gaming, où s'arrête le rétro gaming? Nous, on a une règle à l'association MO5 qui vaut ce qu'elle vaut, c'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la pire, c'est que simplement quand une console, une plateforme technique, ça peut être un ordinateur évidemment, n'est plus commercialisée par son constructeur, pour nous, déjà directement, elle tombe dans le rétro gaming. Voilà. Et donc, c'est une exposition, en tout cas dans l'exposition du musée du vidéo, l'exposition permanente, il y a notamment des kiosques PS4. La PS4 n'est plus commercialisée. Et quelque part, pour les gens qui ont découvert ça, c'était quand même il y a 13 ans, je sais plus.
Ah ouais, mais... Oula, ouais, le coup de vieux que vous me foutez, c'est vrai que ça fait 5 ans la PS5.
Et oui, 5 ans la PS5, 7 ans avant, ouais, ça fait à peu près ça. Ouais. Hein. Donc 10, 12, 13 ans, je sais plus. La PS4, les premières, donc c'est déjà du rétro gaming. Naturellement, pour les premiers joueurs qui ont découvert ça, qui ont acheté maintenant potentiellement une PS5 ou autre chose, c'est du rétro gaming. Ils sortent leur ancienne console pour jouer, peut-être.
Et pour continuer sur l'expérience rétro gaming pure, il y a des bornes d'arcade en libre service. Est-ce qu'il faut venir avec de la monnaie en francs?
Ah, on aurait pu regarder les monnaies, mais en fait, non, tous les jeux d'arcade et les flippers sont gratuits. Puisqu'on paye son ticket, d'entrée, eh bien, on a stipulé évidemment que les gens pouvaient jouer à tout ce qu'ils voulaient, autant qu'ils voulaient, tant qu'ils avaient un petit peu de temps. Puisque la visite, on l'a peut-être pas dit, est censée se faire en 2 heures. On a 2 étages pour l'instant, et il y en aura peut-être un jour plus ou moins. Mais en tout cas, pour l'instant, sur les 2 étages, il vaut mieux passer à peu près 2 fois 1 heure pour bien faire le tour et bien avoir le temps de jouer à toutes les œuvres.
Et faire la queue et faire la relève en mettant la pièce de 5.
Exactement.
1200 mètres carrés de surface exposée. Ça va demander beaucoup de gardiens de musée. On pourra les défier à la manette.
Ils n'auront pas beaucoup de temps de jouer. mais effectivement, le mécanisme, le fonctionnement du musée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs ça qui nous différencie au maximum de projets passés ou peut-être à venir de musées de jeux vidéo commerciaux, on va dire, c'est que ça reste un musée associatif et bénévole. Donc, lorsque le public vient nous voir, il y a un salarié, hein, effectivement, dans le musée qui est en fait le gardien. Il s'appelle Nicolas. On lui dit bonjour. Mais finalement, tous les membres qui vont voir dans l'exposition, qui vont les guider, qui vont leur dire comment jouer, qui vont peut-être leur expliquer pourquoi tel jeu, pourquoi telle machine ou son histoire, ce sont tous des bénévoles de l'association MO5, puisqu'on a la chance d'avoir un grand panel de membres bénévoles disponibles, notamment sur Paris, plusieurs dizaines, voire presque centaines. Et bien, en fait, ce sont ces membres-là qui vont venir, voilà, guider le public pendant les 2 heures de visite, le mercredi, samedi, dimanche après-midi. Et de ce fait, c'est un trait qui est quand même très, très différentiel de potentiellement d'autres musées dans lesquels, évidemment, il y a des salariés, des personnes payées pour, des médiateurs, des choses comme ça. Nous, on travaille de manière associative et bénévole, depuis toujours.
Et c'est énorme. Alors, je suppose qu'il y aura une exposition permanente, peut-être aussi des expositions oui. temporaires.
C'est ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu le temps ou la place de mettre notamment des expositions temporaires, d'ouvrir des espaces d'exposition temporaires. On y travaille. On espère tous que dans l'année, on aura l'opportunité de créer ce genre d'espace, parce que vu le bruit qu'on fait avec l'ouverture du musée du vidéo, avec tous nos partenaires, je l'ai dit, hein, éditeurs, constructeurs, voilà, que ce soit des professionnels ou non du milieu, et en fait, on a des propositions déjà qui tombent presque tous les jours de thèmes qu'on pourrait développer dans des galeries temporaires. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la télématique, j'étais sur Discord des Mo5 tout à l'heure, il y a un membre qui à lequel on rigolait bien qui me dit mais ça serait génial d'ouvrir une salle, une petite salle avec 5 Thomson et Mo5 en nano réseau.
Sachant que c'était 8 et il fallait un ordi, un IBM à l'époque.
Oui, il faut un IBM piloter, enfin, un PC compatible qui alimente ça, ouais.
L'ambiance salle de classe quoi forcément.
Voilà, par exemple. Mais pourquoi pas, c'est rigolo. C'est vrai que on voit plus, et surtout on le verra plus jamais, entre guillemets, si nous ne nous mettons pas en œuvre ou de temps en temps dans des expositions, etc. Mais voilà, des thématiques comme ça, il y en a plein. Je me rappelle même un autre exemple très très amusant, mais que j'aime beaucoup. C'est pendant la Paris Games Week, pendant l'annonce de l'ouverture du musée du vidéo, un mois et quelques après, à peine après, hein, et bien en fait, il y a un collectionneur de cartes vidéo PC, un des plus gros collectionneurs de cartes vidéo PC du monde, qui est venu nous voir, qui s'appelle Alexander, qui m'a dit, bah voilà, moi je suis, il est ukrainien, il est allé en Pologne, il est parti d'Ukraine, il est allé en Pologne. En Ukraine, il avait déjà ouvert dans son lycée une galerie dédiée aux cartes de jeux vidéo PC, une espèce de mini-musée de la carte vidéo. En Pologne, il a créé un autre musée de la carte de jeux vidéo PC. Et en France, il voudrait faire la même chose. Et donc je lui ai dit, bah écoutez, quitte à faire quelque chose aussi intéressant que ça, parce que c'est très intéressant, parce qu'ils ont évidemment des prototypes de voodoo, des machins, des trucs comme ça, eh bien, créons-le dans notre musée. Donc, mon idée maintenant, enfin, en tout cas, mon intérêt, c'est que dès qu'on le peut, si on le peut, ouvrir des galeries temporaires, et notamment pour accueillir les collections de centaines de cartes de jeux vidéo PC de cette personne-là ou de ses collègues, pour créer une galerie dédiée voilà à l'histoire des cartes de jeux vidéo PC quoi. C'est très rigolo.
Pour nos auditeurs qui ne comprennent pas la portée de ce dont on parle, l'ordi PC tel que vous le connaissez actuel, son ancêtre date de 1981. Les premières cartes vidéo, il y avait MDA, Hercule, CGA, c'était incompatible jusque dans l'adressage mémoire et la manière de s'y adresser avec l'interruption 10. Et ensuite, il y a eu toutes les cartes CGA étendue, EGA étendue, VGA étendue. C'est un monde, et en même temps, il y a des choses à voir physiquement sur la carte, de même que sur la documentation, il y a beaucoup de choses qui étaient assez surprenantes, dont les voodoo, les cartes qui étaient en duo, avec une couche 3D qui se mettait par-dessus l'affichage 2D.
C'est ça.
C'est un truc assez dingue.
Exactement.
Mais là, on parle de trucs quand même, de vieux codeurs velus, barbus et graisseux sous les aisselles. Mais du coup, est-ce que ces expos pourraient devenir justement itinérantes?
Oui, on a dans l'idée, de toute façon, je dirais même que par nature, l'association MO5 qui porte donc ce musée de jeux vidéo, hein, il n'y a pas réellement d'entité créée qui s'appelle musée de jeux vidéo, c'est une marque en fait de l'association MO5. Le musée de jeux vidéo est une façade, une très belle façade, mais toute la gestion derrière, c'est l'association MO5 et ses bénévoles. Et donc l'association MO5, elle a déjà pour elle, depuis presque 23 ans qu'elle existe, d'être une association la plus active d'Europe pour donc créer ou participer à des expositions grand public liées donc aux jeux vidéo et à l'informatique. Et donc c'est un travail qui va continuer. Voilà, c'est pas parce qu'il y a le musée du vidéo qu'on arrête maintenant de participer aux gros salons de culture populaire qui peuvent être la Paris Games Week, la Japan Expo, Paris Manga ou des expositions dans les petites médiathèques. On va continuer, l'association MO5 va continuer ses activités, et la grande différence c'est que maintenant nous avons un musée.
Philippe Dubois, vous restez avec nous, cette palpitante interview continue dans notre prochaine émission. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Dans la série Red That Funky Manual, Release EX229, Musée Informatique, première partie. pour cette release. L'équipe est composée de Daskitch, Chief Museum Keeper Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme des extraits et nos sons sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pn/229. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé et évidemment qu'elle attendra le prochain épisode sur les musées. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+ et en stream sur Internet.